Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous allez écouter C'est dans l'air l'intégrale, un podcast de France Télévisions. À tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans C'est dans l'air. La santé n'est pas gratuite. C'est un avertissement lancé par la ministre Catherine Vautrin qui intervient au moment où le gouvernement, on le sait, cherche des économies. La santé, c'est un tiers des dépenses sociales. Alors naturellement, le secteur n'échappera pas aux coupes budgétaires. C'est dans ce contexte, en tout cas, que Gabriel Attal a avancé, lui, des propositions ce week-end pour faciliter l'accès aux soins, ne plus passer par un généraliste, par exemple, pour aller chez le kiné, laisser aux pharmaciens la possibilité de prescrire des antibiotiques dans certaines pathologies, un plan d'urgence aussi pour instaurer des permanences de médecins de garde en soirée et le week-end là où il n'y en a pas. Mais ce que tout le monde a retenu, c'est la taxe lapin, 5 euros sur chaque consultation non honorée. Il paraît que c'est 27 millions de consultations qui ne sont pas honorées chaque année. Santé, il va falloir payer plus, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Gérald de Kerzec. Vous êtes médecin urgentiste, chroniqueur et directeur médical de Doctissimo. Je signale votre livre Leçon d'anatomie aux éditions Albin Michel. Avec nous ce soir, Dominique Seux. Vous êtes directeur délégué de la rédaction des Échos. Je signale votre édito du jour sur France Inter. Taxe lapin, la carotte ou le bâton. Nicolas Béraud, vous êtes journaliste santé au service Futur du Parisien aujourd'hui en France. À lire aujourd'hui votre article « Rendez-vous médical non honoré ». Comment va marcher la taxe lapin de 5 euros ? Faïza Bossier est avec nous. Vous êtes médecin généraliste à Paris et journaliste santé. Puis nous serons tout à l'heure en direct avec Claude Rambaud, juriste spécialiste du droit médical et vice-présidente de l'association France Asso Santé, qui représente les usagers du système de santé. Bonsoir à tous les quatre.
Bonsoir.
Bienvenue dans C'est dans l'air en direct. Je me tourne vers vous pour commencer cette émission, Dominique Seux. On parle beaucoup, beaucoup d'économies, beaucoup de recettes, mais de réformes qu'il va falloir faire pour faire des économies. Quand on pense à économie, est-ce qu'on pense naturellement qu'on peut en faire dans le système de santé et de système de soins français ?
Oui, bien sûr. Alors la question des économies dans le système de soins, elle est un peu différente de ce qu'on fait sur l'État ou les collectivités locales. Dans le secteur de la santé, il n'est pas question de baisser en euros le nombre de milliards dépensés parce qu'il y a une tendance naturelle avec le vieillissement de la population, les pathologies qui s'aggravent ou qui coûtent plus cher à soigner. Il s'agit de ralentir la hausse. Mais ce sont des vraies économies quand même. Il s'agit de dire, est-ce qu'on peut organiser mieux le système ? Alors à l'hôpital, il y a des questions sur lesquelles on viendra, c'est les systèmes administratifs, de gestion, c'est les rapports entre la médecine libérale et l'hôpital, c'est le prix des médicaments. Mais des économies, on en a déjà connu un certain nombre, y compris depuis il y a quelques jours, le doublement des franchises médicales. Ouais. Ça, c'est très concret. Ça concerne vraiment chacun d'entre nous et chacun de nos téléspectateurs. Et donc, on sait qu'il y aura d'autres économies qui vont venir. Et en tout cas, il y a des pistes. Alors, le gouvernement a annoncé un certain nombre de choses, Gabriel Attal hier, sur lesquelles on va longuement revenir. Il y a à la fois des dépenses nouvelles.
C'est ça.
Et puis, il y a des petits bouts d'économies pour essayer, ici ou là, de colmater les brèches.
On précise, pour les gens qui nous regardent et qui le savent sans doute, que la santé est aujourd'hui un des sujets prioritaires pour les Français. Il y a le pouvoir d'achat. Ouais. Derrière, il y a la santé, la sécurité, l'immigration et la dette et les dépenses publiques. C'est un peu contre-intuitif de se dire, dans un moment où on a l'impression que les Français ont pas mal de choses à reprocher au système de santé, on va voir comment se passe l'hôpital, etc., le fait qu'on ne trouve pas de médecins, les déserts médicaux, des soins qui sont de plus en plus chers avec, par exemple, ce que vous venez de dire, la franchise médicale. Que ce n'est pas le bon endroit pour trouver des économies.
Non, mais ce n'est pas là qu'il y en aura beaucoup des économies. Il y a l'idée, la promesse de réformes qui peuvent aboutir à faire changer nos comportements. Mais la santé, c'est 300 milliards d'euros de dépenses et l'assurance maladie, et on arrête avec les chiffres, c'est 250 milliards. C'est considérable. Donc ça, vous avez dit, vous avez commencé en disant un tiers des dépenses sociales. Il y a les retraites, il y a la santé, puis il y a tout le reste. C'est beaucoup, donc il est normal que tout le monde regarde.
Et en même temps, c'est un sujet de consentement à l'impôt, parce que si on paye des impôts, si on paye des taxes, c'est parce qu'on a quelque chose en face. Et ce quelque chose en face, il est, vous venez de le rappeler, extrêmement important, c'est-à-dire qu'on veut être soigné. C'est un peu, je mets ça au même plan que l'éducation, c'est-à-dire qu'on veut tous, quel que soit finalement notre âge, l'endroit où on habite, on paye des taxes, on paye des impôts et on veut en face deux choses qui concernent tout le monde de manière égalitaire, c'est être éduqué et être soigné. Et la différence avec tous les autres sujets, c'est que c'est un sujet, j'allais dire, de cohésion sociale. C'est un sujet justement qui réunit tout le monde. Contrairement à des sujets qui divisent, vous voyez, la sécurité par exemple, ça divise, il y a plein d'autres sujets qui divisent le politique. Là, la santé, on est à peu près tous d'accord.
Nicolas Béraud, est-ce que le gouvernement est en train de préparer les esprits ? Je citais Catherine Vautrin qui rappelle que la santé, ça n'est pas gratuit. On peut aussi citer Bruno Le Maire qui, la semaine dernière, avait dit on va passer de l'État providentiel à un État protecteur, comme si on allait se retirer sur la pointe des pieds de certains postes de dépenses. À votre avis, quelle est votre lecture
là-dessus ? La santé n'est pas gratuite. Les prédécesseurs de Catherine Vautrin au ministère de la Santé, déjà Aurélien Rousseau, François Braun le disaient pour préparer les esprits au doublement de la franchise médicale. Après, on voit bien, par exemple, réformer les ALD, les affections de longue durée. Il y a eu certains ministres, notamment le ministre délégué à la Santé, Frédéric Valletoux, qui a mis dans le débat une possible réforme des ALD pour faire des économies. Il n'a pas précisé quelle tournure ça pourrait prendre. Ça a tout de suite fait beaucoup jaser. Les associations se sont inquiétées, s'en sont émues. Le gouvernement, maintenant, semble faire machine arrière. Alors, est-ce que c'était un ballon d'essai ou pas ? On ne sait pas trop. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on voit bien à quel point toucher à la santé, toucher au financement de la santé, pour les Français, ça peut avoir des conséquences très importantes. Et ça génère beaucoup d'inquiétudes. Donc oui, pour le gouvernement, c'est complexe. Quand on a rencontré Gabriel Attal samedi, je lui ai clairement posé la question avec les confrères de la presse régionale, est-ce que la santé a vocation à être concernée par les économies ? Ils ont pas dit non, donc ça veut dire oui, mais certainement, comme l'a dit Dominique Seux, moins que d'autres domaines. Et ils l'ont dit oui, et ça a été dit. Le doublement de la franchise médicale, quand vous achetez des médicaments 1 euro et plus 50 centimes par boîte de médicaments, bah concrètement, pour le portefeuille des Français, ça compte.
Sur les ALD, il y a eu cette somme qui a été assez étonnante. Moi, je ne la connaissais pas. 6 milliards dépensés pour les transports concernant les affections longue durée.
Transports sanitaires. C'est les personnes qui sont transportées soit en taxi, soit en ambulance, d'un lieu à un autre. Parmi les pistes d'économie, il y aurait par exemple la possibilité de faire transporter deux personnes en même temps, si c'est faisable en pratique. Ça, c'est un domaine, le transport sanitaire, sur lequel il y a possiblement ou probablement des mesures qui seront prises par le gouvernement.
Dominique. Oui, alors après, en regardant les transports, parce que ça peut concerner effectivement beaucoup de monde, c'est pourquoi ça a dérapé ? Est-ce que ça a dérapé parce que l'assurance maladie dit plus facilement on va payer le transport, ou tout simplement parce que les médecins sont plus loin ? Et un médecin est inaccessible quand on est en milieu rural. Et dans ce cas-là, il faut faire plus de kilomètres. Donc vous voyez, chaque sujet est un tiroir qu'il faut ouvrir, mais il faut aller regarder dans le détail.
Vous connaissez ce sujet par cœur, ça fait des années que vous voyez passer des gouvernements qui disent on va faire des économies. Est-ce que vous diriez que dans ce climat en ce moment, notamment sur le sujet de la santé, c'est un sujet, on parlait du consentement à l'impôt, on parlait de ce sujet qui peut hérisser les Français. Oui. Est-ce qu'ils avancent à pas compter ?
Ils doivent, il faut qu'ils avancent à pas compter pour une raison très simple qui a été évoquée par le Dr Kézek, qui est... On dépense beaucoup d'argent, mais les Français ne sont pas très satisfaits du service. Il y a une vingtaine d'années, on disait « c'est le premier système de santé au monde ». Alors aujourd'hui, je ne sais pas très bien où on le place, mais en tout cas, il y a une insatisfaction. Les Français ne sont pas tout à fait contents parce qu'ils ont du mal à trouver un médecin, un spécialiste, un généraliste, surtout en milieu rural. Il y a un article absolument fascinant chez notre confrère du Monde, publié ce matin, qui raconte combien de Français font des centaines de kilomètres pour avoir des rendez-vous, parfois à minuit, pour venir en région parisienne, pour faire un IRM, un scanner, un PET scan et autres. Et on se dit, mais ça, c'est complètement nouveau, on ne connaissait pas. Alors, ça ne veut pas dire que les pouvoirs publics sont responsables, ils ont failli, ils ont parfois failli. Mais le vieillissement de la population a changé considérablement la donne. Les dépenses de santé concernent, et c'est normal,
et elles vont exploser.
En partie les plus âgés.
Et elles risquent d'exploser justement avec le vieillissement de la population.
Oui. Hein.
Votre réaction à ce qui vient d'être dit quand vous entendez parler d'économie dans la voix du gouvernement sur la santé, parce que c'est un gros poste de dépenses.
Oui, c'est un gros poste de dépenses, mais je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait de sujet tabou entre économie et santé. On doit réfléchir, on doit avoir une vision stratégique et globale sur comment demain on va fonctionner sur le plan sanitaire. S'il y a des insatisfactions de la part des Français, sachez qu'il y a aussi des insatisfactions de la part des médecins, c'est-à-dire qu'on est dans des conditions de travail qui sont de plus en plus délétères. Ça ne nous fait pas plaisir, nous, de voir un patient qui a fait 100 km pour venir nous voir. On se pose, nous aussi, des questionnements. Mais il faut une vision globale avec une population qui vieillit, avec également des ressources qui sont à la peine. Donc tout ça, ça nécessite de s'asseoir autour de la table et non pas de faire des mesurettes, mais de vraiment restructurer.
Et peut-être de dire les choses. Est-ce qu'on essaie
aussi
de faire ce soir avec le titre qu'on a choisi ? Est-ce que, on a commencé en disant la santé n'est pas gratuite, est-ce qu'il va falloir accepter pour les Français de dire eh ben, on va devoir payer plus pour notre santé ? Est-ce que c'est ça que vous avez en tête quand vous dites tout poser sur la table et regarder le sujet avec sincérité ?
La santé, elle a un coût. Mais comment est redistribué ce coût de façon cohésive, de façon à peu près équitable au sein de la population française ?
La France est dans le monde, enfin des pays développés, sont les États-Unis qui dépensent le plus pour la santé, très nettement au-dessus. C'est 17% du produit intérieur brut. C'est un système quasiment exclusivement privé. Après, vous avez trois pays qui dépensent à peu près la même chose et qui sont juste en dessous, c'est Royaume-Uni, France, Allemagne, c'est-à-dire les trois plus gros pays, non pas de l'Union européenne pour le Royaume-Uni, mais en tout cas pas du continent européen. La France est plutôt dans les pays qui dépensent beaucoup d'argent pour leur santé, ce qui est tout à fait normal au stade de développement où nous en sommes. Mais l'éducation demande beaucoup de choses. Les retraites, il faut les financer. Il y a la réindustrialisation. Il y a énormément de sujets qui appellent. Donc, où faut-il mettre le maximum de moyens? C'est la question collectivement.
Et où faut-il faire les économies? Et c'est sur la santé, côté professionnel de santé, on sait où il faut faire les économies.
C'est
parce qu'on est conscient. C'est sur la pertinence des soins. C'est un chantier qui avait été ouvert par Agnès Buzyn. Rappelez-vous, elle avait dit la pertinence des soins. Est-ce que tel scanner est utile ou pas, par exemple? Est-ce que tel médicament ou telle prise de sang est utile? Ça, ça coûte de l'argent. Est-ce que tel transport sanitaire est utile aussi? Est-ce qu'on peut l'optimiser? Parce que les seules, j'allais dire, économies acceptables sur un plan éthique. Parce que là, on est quand même sur... OK, on parle d'économie, mais enfin, on parle de médecine, on parle de santé, on parle de soins. Donc, il y a un volet éthique important. Les seules économies éthiquement acceptables, c'est des économies qui sont justes, qui ne sont pas au détriment des patients, qui ne sont pas une perte de chance pour les patients. Et clairement, quand on voit que, par exemple, le dossier médical personnel, vous savez, ce fameux DMP 2004, Philippe Douste-Blazy, c'est-à-dire c'était il y a 20 ans. On avait dit, ça va faire des économies parce que ça va éviter qu'on multiplie les examens, on aura une traçabilité, etc. Où est-ce qu'on en est? On n'y est pas. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'il faut qu'on se mette, je suis entièrement d'accord avec ma consoeur, il faut tout mettre sur la table. Deuxièmement, les personnes qui disent qu'il faut faire des économies depuis 30 ans, on voit bien que ça va dans le mur, et en particulier nous, à l'hôpital, on voit bien que les technocrates, comme on les appelle, je pense qu'il faut changer de logiciel. Et donc, il faut qu'on se remette technocrate peut-être et professionnel et patient autour d'une table et tout poser et pas.
Le problème, c'est que parfois on pose tout et puis on dit au patient, il va falloir passer par votre généraliste maintenant parce que ce sera plus simple et sinon vous serez sanctionné.
Et maintenant,
on va le voir parce que ça fait partie des annonces de Gabriel Attal. Maintenant, on dit allez directement voir un spécialiste, il faut s'y retrouver. En tout cas, c'est l'une des préoccupations majeures des Français, la santé. Gabriel Attal a donc dévoilé ses pistes pour faciliter l'accès aux soins et trouver peut-être des économies. L'une des mesures les plus commentées est donc la taxe lapin, 5 euros pour chaque rendez-vous annulé moins de 24 heures avant. 27 millions de rendez-vous ne sont pas honorés chaque année. Romain Besnénou et Christophe Roquet.
Son plan pour la santé, Gabriel Attal le détaille dans 8 journaux de la presse régionale ce week-end. Objectif, améliorer l'accès aux soins et libérer du temps aux médecins. Le Premier ministre résume, taxes, formation et simplification.
La réalité, c'est que les Français doutent. Ils renoncent aux soins à cause du manque de médecins ou de rendez-vous.
Parmi les pistes évoquées, 16 visent à simplifier les procédures de santé. Par exemple, les pharmaciens pourront prescrire directement certains antibiotiques sans que le patient passe par un généraliste. Les opticiens pourront corriger les verres de lunettes et les rendez-vous chez le kiné pourront se faire sans ordonnance. Autre mesure, la fameuse taxe lapin. Le patient devra verser 5 euros au médecin s'il ne vient pas au rendez-vous et s'il n'a pas prévenu au moins 24 heures avant. Mesure assumée par la ministre de la Santé ce matin.
27 millions de rendez-vous ne sont pas honorés chaque année. En d'autres termes, des gens prennent rendez-vous et ne vont pas à leur rendez-vous.
Oui.
C'est du temps perdu, du gaspillage et du manque de respect pour les médecins. Donc, quelque part responsabilisé, je prends rendez-vous, j'y vais, je peux avoir un empêchement, je m'excuse, je ne me suis pas excusé, j'ai à payer 5 euros.
L'idée, réclamée depuis longtemps par certains professionnels de santé, séduit cette spécialiste.
C'est difficile aujourd'hui de maintenir un cabinet à flot. Les revenus des médecins à euros constants n'ont pas bougé depuis 20 ans. Les charges, elles, augmentent évidemment tous les ans, comme pour toutes les entreprises d'une certaine manière. Et avoir ces rendez-vous qui sont ce manque à gagner-là, c'est vraiment quelque chose qui est important aujourd'hui pour l'avenir, en tout cas pour l'attractivité du métier aussi.
En plus de ce plan d'accès aux soins, le gouvernement veut réduire les dépenses publiques liées à la santé. Il vise 6 milliards d'euros d'économies. Premier levier, le doublement des franchises médicales, autrement dit le reste à charge pour le patient lorsqu'il achète une boîte de médicaments ou qu'il est hospitalisé par exemple. Déjà entrée en vigueur début avril, la mesure fait bondir l'opposition.
Dire aujourd'hui à des Français, dont un quart d'entre eux a déjà renoncé à se soigner en raison du coût de l'accès aux soins, qu'on va doubler la franchise médicale est irresponsable.
Et le gouvernement ne veut pas s'arrêter là. Dans son viseur, les dépenses liées aux affections de longue durée, comme les cancers ou le diabète, estimées à 120 milliards, les arrêts maladie, ou encore les transports sanitaires, dont la charge pour l'assurance maladie s'élève à 6 milliards d'euros par an.
Pour certaines consultations, on peut prendre les transports publics lorsqu'on habite en métropole, pas très loin de l'établissement, et qu'on est en forme, parce que tout le monde n'arrive pas en civière à l'hôpital ou à sa consultation. Et il est évident que ceux qui ont besoin de transports sanitaires adaptés, parce qu'ils sont dans des cas lourds, évidemment qu'on va pas toucher à ces cas-là. Mais voyez bien que dans le dispositif général, je le redis, 6 milliards d'euros, on doit trouver des moyens de contenir l'emballement de ces dépenses.
Pour l'opposition, à droite cette fois, le plan de rigueur du gouvernement ne passe pas. Avertissement d'Éric Ciotti ce week-end, le groupe LR n'hésitera pas à déposer une motion de censure si certaines lignes rouges sont franchies, notamment sur les dépenses de santé. Les Républicains ne pardonnent pas le dérapage du déficit public.
Mes chers collègues, vos mesures, c'est du court terme qui masque l'absence de réformes de fond. Pour quel résultat ? 58% des Français considèrent que le système de santé en France fonctionne mal. Alors, monsieur le ministre, je vous le demande, je vous pose la question, est-ce que la santé des Français est la variable d'ajustement du déficit de l'État ?
Le Rassemblement national a déjà annoncé qu'il voterait la motion de censure des LR, jugeant la situation à un niveau d'urgence.
Et Claude Rambaud est avec nous ce soir. Bonsoir, vous êtes juriste spécialiste du droit médical, vice-présidente du collectif d'association France Asso Santé, qui représente les usagers du système de santé. Merci d'être avec nous ce soir. Vous allez participer à cette discussion et peut-être répondre à cette première question. Regardez, je suis d'accord pour 5 euros si en contrepartie on applique la même punition aux médecins qui laissent poireauter le patient 2 heures en salle d'attente. Bon. Sur la taxe Lapin, plus sérieusement, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose ?
Non, nous sommes d'abord, bonsoir tout le monde, bonsoir Caroline. Oui, nous nous sommes beaucoup exprimés, France Asso s'est exprimée sur le sujet, nous ne sommes pas du tout d'accord avec la taxe Lapin qui pénalise encore les patients, c'est toujours la faute des patients, mais quelque part, ça a été dit sur votre plateau tout à l'heure, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire qu'on se noie dans un débat de mesurettes parce que ça ne va pas peser tant que ça. Et de toute façon, la taxe Lapin, comme les franchises dont vous parlerez sans doute tout à l'heure, ce n'est pas du tout ce qui va permettre aux patients d'accéder plus facilement au rendez-vous. Et vous l'avez dit aussi, comment fait-on pour pénaliser, au contraire, les professionnels qui ne s'organisent pas dans leur implantation territoriale de façon à ce que tous les patients puissent accéder à un médecin. Donc voilà, la taxe Lapin, pour nous, on n'est pas d'accord. D'ailleurs, on ne sait pas trop bien comment elle va se faire.
On va rentrer sur la faisabilité, parce que ça existe déjà à l'étranger, mais lorsque vous avez interrogé le Premier ministre, quelle était sa volonté derrière la taxe Lapin ? Est-ce qu'il pense réellement que ça va permettre, c'est quand même le sujet, aux Français d'accéder plus facilement à des rendez-vous ?
Il veut, je cite, « responsabiliser les patients ». Si on recontextualise, il y a un certain nombre de patients qui ne se présentent pas à des rendez-vous qu'ils ont pris sans avoir annulé au préalable. Donc ça fait des années que l'Ordre des médecins et certains syndicats de médecins, je dis bien certains, pas tous, plaident pour une sanction financière, une pénalité pour les patients qui ne viennent pas et qui n'annulent pas afin que, s'ils ne viennent pas, ils annulent pour que le médecin puisse se retourner. On estime, vous l'avez dit, à 27 millions le nombre de rendez-vous non honorés chaque année. C'est une estimation qu'il faut prendre avec beaucoup de pincettes parce que c'est compliqué à établir, mais en tout cas, il y en a un certain nombre. Et ce que propose Gabriel Attal, c'est pour responsabiliser les patients, on va prendre on va fixer un montant de 5 euros et si le patient n'annule pas 24 heures avant un rendez-vous et qu'il ne se présente pas, il n'y a pas de sanction automatique, mais la loi, si elle est votée en l'État, permettra au médecin de sanctionner le patient à hauteur de 5 euros. Donc le médecin, s'il considère que le patient avait une bonne excuse ou qu'il est défavorisé, il peut ne pas lui faire payer. Mais ça pose déjà des questions de fond auxquelles madame a répondu, mais ça pose aussi des questions techniques. Comment on fait ? Les plateformes de réservation comme Doctolib, ils prennent une empreinte bancaire pour les téléconsultations. Pour l'instant, ils ne sont pas forcément très partants pour le généraliser, parce qu'une empreinte bancaire, ça peut éloigner des personnes du système de soins, si des personnes rechignent un peu à prendre rendez-vous, s'il faut laisser ses coordonnées bancaires. Donc est-ce que ça peut passer par une empreinte bancaire ? Est-ce que ça doit passer par un autre système ? Des syndicats de médecins proposent que l'assurance maladie, par exemple, prélève 5 euros sur leur rendez-vous d'après. Mais comment on fait ? Est-ce que l'assurance maladie a ce pouvoir-là ? Techniquement, ouais, on n'a pas encore de précision. On a le montant que veut le gouvernement. On sait que ça devra passer par une évolution de la loi, donc sous réserve que la loi soit votée. Mais techniquement, on n'a pas encore la réponse à comment ça peut marcher. Mmh. Et après,
est-ce ça que se fait dans d'autres pays étrangers, on peut le
oui,
dire.
Oui, non, mais ça peut se faire. En soi, techniquement, on peut trouver des solutions. Mais après, il y a sûrement des médecins qui n'appliqueront pas ça parce qu'ils se diront bah, mon patient, il avait une bonne excuse, je ne veux pas me mettre mal avec lui.
On va leur demander.
Soyons sérieux. Est-ce que c'est ça qui va régler le problème du manque d'attractivité en médecine générale, le problème d'accès aux soins, le problème d'accès aux spécialistes? C'est absolument pas ça qui va régler les choses.
C'est un gadget.
Donc on voit bien que c'est un gadget, c'est un effet d'annonce politique et de communication. On est dans de la communication pure, si c'est mis en place, et encore, mais même si c'est mis en place avec toutes les réserves qui viennent d'être dites, à quoi ça servira? Ça va, comme disait Claude Rambaud, taper un peu plus sur les patients. Les médecins, bon, vas-y, 5 euros, c'est pas ça qui va changer les choses. Mais surtout, ça ne change rien à la distribution des médecins sur le territoire, à la répartition dans les spécialités, au manque de praticiens dans certains secteurs. On voit bien que le problème en France, c'est un problème de vision démographique, d'installation entre les spécialistes, les généralistes, le secteur public, le secteur privé, le nord et le sud de la France. Quand on parle, et on y reviendra sur les annonces démographiques aussi pour augmenter le nombre de médecins, on a plus un problème, j'allais dire, qualitatif de répartition actuellement qu'un problème quantitatif de médecins. Mmh. Qui veut faire de la médecine générale à 26,50 euros? Personne veut faire ça, surtout quand vous êtes dans
Donc on manque de médecins généralistes.
Donc finalement, ce n'est pas cette taxe lapin qui va changer quelque chose.
Votre avis sur cette taxe lapin et sur la faisabilité, vous disiez à bas bruit tout à l'heure, c'est une usine à gaz. C'est-à-dire qu'on va vous demander à vous de sanctionner vos patients.
Il y a des pays où ça existe, des pays où j'ai vécu et où ça existe. Et en effet, quand vous honorez pas votre rendez-vous, alors, en général, c'est au bout de la deuxième consultation, c'est la consultation en entier qui est prise. Ce n'est pas un pourcentage de la consultation.
D'accord.
C'est le cas aux États-Unis, c'est le cas aussi au Royaume-Uni.
Ce serait mieux ?
Je ne sais pas si c'est mieux ou pas mieux. En tout cas, on observe un taux de remplissage de vos consultations, du coup, qui sont véritablement honorées. Oui. La problématique, c'est que il est de bon ton, je pense, c'est une question de politesse, quand les patients ne peuvent pas venir, au moins nous prévenir. Cas typique, lundi matin, quand je commence à 8h et que je viens et que mon patient ne vient pas, il ne me prévient pas, avouez que pour moi, ce n'est pas très agréable. Donc, c'est plus, voilà, c'est une question d'éducation, de politesse au sens littéral du terme, mais la plupart du temps, on s'en sort. Donc, je pense que si les médecins s'en sont pleins, c'est qu'il y a aussi une réflexion à avoir sur le sujet. Mais comme dit mon confrère, ce n'est pas ça qui va régler le problème de la.
Ça ne veut pas dire que d'un coup, on retrouve 27 millions de rendez-vous non honorés qui vont donner un accès plus facile aux gens. Généraliste ou spécialiste, vous ne croyez pas?
Non, c'est une problématique qui est différente. C'est une problématique de comment on fait pour pouvoir avoir une consultation qui soit bien remplie avec des patients qui l'honorent. Voilà, c'est pas ça qui va régler le problème de santé au sens littéral du terme.
Dominique, je pense. Crois que le gouvernement n'a jamais dit que ça va régler le problème de santé. Il bouche un trou et je trouve que c'est une très bonne idée. Ne pas aller à un rendez-vous, vous l'avez dit, c'est un manque de respect. D'où ça vient cette affaire-là? C'est que les plateformes ont tout changé. Les plateformes, vous prenez un rendez-vous lundi à 9h, mais vous en prenez aussi par précaution le jeudi avec quelqu'un d'autre et vous dites on verra quel rendez-vous le rendez-vous arrive le plus vite puis après vous l'annulez pas. Honnêtement, c'est un manque de civilité, de respect et c'est très compliqué. Puis ça va évidemment pas changer la face de la Terre non plus. Ça donnera quand même des millions de rendez-vous, de créneaux supplémentaires sur, je sais pas, il y a 300 millions de rendez-vous par an. S'il y en a quelques-uns, 1%, 2%, 3% de créneaux disponibles à peu de frais, c'est une très bonne idée. Alors, ne nous faisons pas d'illusions. Les médecins ne vont pas l'appliquer globalement, je pense.
Oui,
l'important,
c'est le message.
C'est le message de communication politique.
Oui.
Alors, ce qui est très drôle, c'est qu'on appelle ça la taxe lapin, alors que le gouvernement répète depuis des mois qu'il ne veut pas augmenter les impôts.
Oui. Donc, c'était la question que je voulais vous poser. Elle va où, cette taxe lapin?
Non, alors elle va dans la poche des médecins.
Dans la poche des médecins.
Merci. Le ministère des Finances a essayé de faire en sorte que ça aille dans la poche de la CNAM. Débat interne la semaine dernière au sein du gouvernement. Bercy a perdu. Gabriel Attal a dit non, on va le faire chez les médecins. Mais les médecins ne vont pas l'encaisser, je ne crois pas. Et ça va obliger un petit peu tout le monde à prendre conscience que il est normal de respecter les choses. Le taux, quand on dit 27 millions de rendez-vous non honorés, ça fait, alors je parle sous votre contrôle, environ 6%. Ce n'est pas considérable non plus, mais 6%, ça n'est pas rien. Pour l'anecdote, la spécialité où il y a le plus de rendez-vous non honorés, ce sont les dentistes, comme
pourquoi
si les Français avaient du mal à aller
au dernier. Ça, on les comprend, c'est ça que vous voulez dire. Juste ces chiffres-là qui montrent à quel point il y a une problématique sur l'accès aux soins. Combien de temps avez-vous dû attendre pour obtenir un rendez-vous? Alors, pour un médecin généraliste, 10 jours. En 2019, c'était 4 jours. Chez un ORL, c'est 2 mois. C'était 1 mois et 1 semaine en 2019. Cardiologue, c'est 2 mois et 2 semaines. Dermatologue, 3 mois et 1 semaine. Tout ça, il y a une inégalité d'accès aux soins. Je pense que ces chiffres-là sont des moyennes. moyenne. Je pense que dans certains territoires, c'est encore plus difficile. Est-ce que sur cette problématique-là, il y a eu des réponses de la part de Gabriel Attal? Et vous me disiez, pendant le premier reportage, ce ne sont pas des annonces, puisque tout ça était dans les cartons et déjà annoncé, mais ça a été, mis en musique par Gabriel Attal.
Avant de vous répondre sur les annonces, un autre chiffre qui va compléter le vôtre, les délais de rendez-vous augmentent, et c'est documenté dans une récente enquête de la Fédération hospitalière de France, le temps moyen pour aller chez le médecin, en voiture, en transport, etc., augmente aussi. Donc c'est aussi lié au manque de médecins, on met plus de temps à aller chez son spécialiste. Pour ce qui est des annonces, effectivement, Gabriel Attal, samedi, il a parlé de la taxe lapin, il a aussi indiqué des choses sur des mesures pour faciliter notamment ce qu'on appelle l'accès direct à des kinés, oui, des médecins spécialistes, sans passer par le médecin généraliste. Par exemple, l'accès direct au kiné, c'est-à-dire ne pas avoir besoin d'une ordonnance d'un médecin pour aller chez le kiné, va être expérimenté dans 13 départements en juin.
Alors, ça fait faire des économies, ça ?
Bah, des économies, non, mais par contre, ça peut permettre à des patients qui mettent 3 semaines à prendre un rendez-vous chez le médecin avant d'aller chez le kiné, d'aller directement chez, ouais, le kiné. Par contre, c'est une mesure, et vous l'avez dit, c'est quand même intéressant de le redire, qui a été adoptée, votée dans une loi il y a un an. Donc, ce n'est pas une mesure qui est nouvelle, mais elle n'était pas encore appliquée parce qu'on n'avait pas les décrets d'application. Ce que dit Gabriel Attal, ce n'est pas « on va faire ça » parce qu'on le savait, mais c'est « ça commence en juin, les décrets vont sortir ». Une autre mesure, en pharmacie, on pourra se faire prescrire des antibiotiques si on a une angine et qu'on fait un test qui prouve que des antibiotiques peuvent être efficaces.
Ou une cystite, dans deux cas.
Absolument. Ça, pareil, c'est une mesure qui est prévue dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale qui a déjà été adoptée. On n'avait pas encore les décrets, ça va venir.
Claude Rambaud, sur ces deux mesures précisément qui viennent d'être commentées, passer directement donc sans la case généraliste pour aller chez un kiné par exemple, ou sur la possibilité donnée aux pharmaciens de prescrire certains antibiotiques dans deux cas précis qu'on vient d'évoquer, qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors sur les kinés, il y a une expérimentation, donc on va voir ce que ça donne. Mais nous, à France Asso, on est tout à fait d'accord pour un accès plus facile à certains professionnels. Et en ce qui concerne les pharmaciens, et notamment parce que ça porte sur les antibiotiques, où on voit bien que la lutte contre l'antibiorésistance et la surconsommation d'antibiotiques est très difficile, les pharmaciens ils vont être soumis à l'obligation de faire un test rapide, ce qu'on appelle les TROD. Les tests rapides existent aussi pour les angines, mais aussi pour les cystites. Et donc, oui, nous sommes tout à fait favorables à ce que l'accessibilité à un traitement d'angine ou de cystite directement par un pharmacien soit mise en œuvre.
Et de votre côté ?
C'est une vraie réflexion, c'est-à-dire que scientifiquement, quand on raisonne chez un patient, on prend en compte le risque global. Or là, j'ai un peu le sentiment d'une parcellisation du soin. C'est-à-dire que vous allez aller consulter tout de suite, dans l'immédiateté, un spécialiste, un expert, mais sans avoir la vision globale de la prise en charge du patient.
Sauf que ça n'existe plus, si ?
Alors, je ne suis pas d'accord. Le rôle du médecin généraliste, c'est quand même de prendre dans sa globalité, dans son entièreté, un patient. Après, on dit que mes confrères pharmaciens peuvent en effet prescrire un antibiotique, etc. Bon, c'est un fait. Il a son expertise. Mais qu'en est-il de la connaissance de ce dossier ? Où examine-t-il ce patient ? Je ne dis pas que mes confrères ne font pas bien, ce n'est pas ce que je dis, mais je pense que c'est une réflexion globale du soin. On a une pertinence du soin qui est un peu érodée.
C'est vrai qu'ils ont géré aussi la vaccination pendant la crise du Covid, ils ont été mis à
contribution. Ça, c'est lié au manque de ressources.
Mais est-ce que ça facilite l'accès aux soins ? De dire, bon, de toute façon, je n'arrive pas à trouver de rendez-vous chez un généraliste, a priori, je sais ce que j'ai, je vais directement à la pharmacie, ça met de la fluidité quand même.
Ça met de la fluidité, mais après, j'ai envie de vous dire, qu'en est-il ? Quid de ça ? Très bien, vous avez une infection urinaire, vous avez été voir le pharmacien, on vous traite. Et après ?
Ben après, on est guéri. Voilà.
D'où est-ce que ça part ? Du fait que il y a 100 000 médecins généralistes en France, il y en a autant qu'en 2012, alors que la population a vieilli et qu'elle a augmenté. Donc, on dirige une partie des patients vers les pharmaciens et une autre partie vers les spécialistes. Et on fait effectivement l'inverse de ce qui avait été décidé il y a 20 ans, puisqu'il fallait passer par cours de soins par le généraliste avant d'aller voir le spécialiste. Donc, on fait l'inverse. Et c'est vrai que pour les patients, les Français en général, on va dans un sens, puis dans l'autre, on a un petit peu de mal à suivre. La question, c'est pourquoi n'y a-t-il pas assez de généralistes aujourd'hui?
Vous êtes en train de dire, juste pour être sûr de bien comprendre ce que vous dites, Dominique, c'est-à-dire que ces mesures-là, elles sont annoncées, en fait, parce qu'il n'y a pas assez de généralistes et qu'il faut trouver un moyen de contourner cet obstacle.
C'est un canot de sauvetage.
D'accord.
Les plans qui sont annoncés en ce moment, c'est un canot de sauvetage. Attention, ça ne veut pas dire que le canot de sauvetage est percé et qu'il va couler et que les médecins ne font pas le job ou que les pharmacies ne font pas le job. Mais on essaye, les pouvoirs publics, que ce soit de droite, de gauche, du milieu, du centre, etc., ils essayent de trouver des solutions parce que nous avons une démographie médicale qui n'est plus adaptée à notre pays. Et c'est le sujet de l'augmentation du nombre d'étudiants en médecine.
Alors, 5 000
non, alors, non en seconde année, on est passé... on était à 8 000 étudiants en deuxième année en 2017. On doit être à 11 000 aujourd'hui. Et ce qui a été annoncé ce week-end,
c'est 16 000,
à Nicolas Béraud, c'est 16 000.
Mais on est parti de 4 000 au creux de la vague. Hein. Il y a 20 ans, c'était 4 000. Ça a été doublé et on va arriver à 16 000.
Oui, mais dans combien de temps? Dans 10 ans?
Oui, dans 10 ans. Mais encore une fois, si vous augmentez à 16 000 le nombre de personnes qui vont être médecins, mais qu'à la sortie, bah, les gens n'ont plus les conditions correctes, décentes pour exercer de la médecine, et je reviens sur le prix de la consultation d'un généraliste qui est moins cher qu'un plombier, qu'un coiffeur,
etc. Elle a été revalorisée.
Certes, elle a été revalorisée, mais enfin, ça reste quand même 13 ans de ça, de l'inflation, du coût de la vie, du coût de l'immobilier, etc. Vous ne motiverez pas les gens à faire de la médecine générale. La vraie question dans cette histoire, et je rejoins Dominique, qui dit il y a 20 ans, il y avait un parcours de soins. Là, on nous dit on va à l'inverse et on colmate finalement. On nous dit vous faites de la téléconsultation, on ubérise la médecine, comme TripAdvisor pour le restaurant.
Oui.
Vous mettez votre
on note les médecins.
Bleu, on note les médecins derrière, etc. Donc tout ça n'est pas motivant pour les professionnels de santé, première chose. Et puis deuxièmement, c'est l'inverse de la bonne médecine. La bonne médecine, c'est connaître son patient, connaître ses antécédents, avoir un suivi. Je sors de garde 24 heures à l'hôtel Dieu, j'ai encore deux patients qui sont venus avec leur analyse en disant ben voilà, je voudrais que vous m'aidiez parce qu'il y a des résultats anormaux. Je dis mais qui vous les a prescrits? Ah ben je l'ai fait par une téléconsultation. Je sais pas qui me l'a prescrit. Donc on voit bien qu'on colmate mais qu'il y a aucune cohérence et c'est pas de la médecine ça, pardon, c'est peut-être Uber ou autre chose mais c'est pas de la médecine.
Claude Rambaud, vous vouliez réagir à ce qui vient d'être dit et peut-être cette question qui nous est posée. Les médecins critiquent les déserts médicaux mais ne veulent aucune mesure contraignante. Comment fait-on alors?
Oui, c'est un peu ça. Mais ce que dit Gérald est très juste. Il faut faire une refonte du système et non pas une réforme et une réformette supplémentaire. Donc, oui, mais comment on fait? Moi, j'entends bien tout ce qui a été répondu là. Mais comment on fait pour que les patients accèdent quand ils en ont besoin? On est bien obligé de trouver des moyens d'accès. Et le pharmacien, il est aussi un conseiller. Il ne va pas distribuer, il va pas donner des antibiotiques comme ça, n'importe comment. Et il faut savoir aussi que les pharmaciens ont cet immense avantage pour les patients, moi, je parle plutôt au nom des patients, c'est qu'ils sont là H24. Donc, on peut effectivement les contacter. C'est peut-être la téléconsultation que vous venez d'évoquer. Oui, c'est vrai qu'on peut aussi donner des antibiotiques comme ça, mais le pharmacien, il fera un TROD, il fera un test. Déjà, il y aura une grande partie des prescriptions d'antibiotiques qui sont inutiles, qui ne sont pas pertinentes, qui seront éliminées. Tout ne sera pas mauvais dans ce système. Mais on verra bien. Si ça ne va pas, eh bien, on reviendra en arrière. Mais encore, faut-il avoir une autre façon de faire? Qu'est-ce qu'on propose à la place? À ce moment-là, il faudrait dire carrément on fait de la régulation, de l'installation des médecins. Mais ils ne veulent pas de la régulation des médecins. Il faut bien qu'on trouve des alternatives.
Merci beaucoup Claude Rambaud d'avoir été avec nous. Je vais faire suite à ce que vous nous dites à l'instant en plateau avec cette réaction, parce que c'est vrai ce qui a été dit. Si on fait de la téléconsultation avec un médecin qu'on ne connaît pas, qui nous prescrit des analyses, c'est parce qu'on n'a pas trouvé un rendez-vous.
Mais qu'est-ce qu'on fait pour attirer les médecins dans ces professions? Qu'est-ce qu'on fait pour les fidéliser? Il faut refaire confiance à ce maillon essentiel qu'est le médecin généraliste. Ça fait 20 ans, 30 ans qu'on promet des choses et que rien ne suit. Moi, je ne suis pas généraliste, mais mes collègues généralistes, ils en souffrent les premiers. C'est pour ça qu'en plus, on va leur retaper dessus en disant, en plus, il faut que vous preniez des gardes, etc. Ouais. Deuxièmement, la médecine a changé. On ne fait plus de la médecine aujourd'hui comme on le faisait il y a 20 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un médecin isolé, tout seul dans son cabinet, je crois que ce n'est même plus la demande maintenant des collègues et des jeunes collègues. Il y a besoin d'un minimum de plateau technique. Ce plateau technique, c'est probablement un peu de biologie, un peu de radio dans des centres groupés.
Vous en faites de la téléconsultation? Y compris avec des patients que vous ne connaissez pas?
Non.
Jamais?
Non, avec des patients qu'on connaît, c'est la règle.
Ah
bah. C'est-à-dire que pour
D'accord.
Mais
c'est ça. Ça veut dire qu'on ne prend pas de nouveaux patients parce que.
Si, on peut prendre des nouveaux patients, mais je ne les vois pas en téléconsultation la première fois.
Voilà.
c'est la règle que la collègue s'impose, mais toutes les plateformes. Ouais. Parce que c'est ça, le Covid a fait exploser ces plateformes. Vous prenez un rendez-vous et vous tombez sur un médecin qui est à 600 km quand il est en France.
Mais j'aimerais vraiment qu'on puisse dire aux patients que. C'est pas le médecin qui veut pas consulter, c'est que 1 plus 1, ça fait 2. On a une pénurie médicale. Donc les professionnels de santé sont là pour s'adapter, ils sont là pour le patient, c'est pas la problématique. Mais en même temps, il y a un manque de ressources. Moi, je n'ai que demain.
Ouais, bien sûr.
Pas qu'on ne veut pas faire, c'est que c'est compliqué parce qu'on manque de ressources et c'est un manque d'anticipation, de vision stratégique depuis plus de 30 ans.
Alors, les pharmaciens et les médecins spécialistes,
il ne faut
pas se tromper, on ne déborde pas de pharmaciens et de médecins spécialistes.
Il manque de pharmaciens.
C'est un peu une panacée, les mesures. On parlait des pharmaciens disponibles 24 heures sur 24, les pharmacies de garde la nuit, il n'y en a pas partout. Donc si tout le monde se rue le soir tard dans les pharmacies, ça va aussi poser problème.
Et parfois, il manque de médecins généralistes, parfois, il manque de pharmacies et parfois, il manque de médicaments. Ce sont des témoignages que chacun d'entre nous a entendus forcément ces derniers mois. Faire le tour des pharmacies pour trouver un antibiotique, remplacer un traitement par un autre, faute de stock. À la difficulté de trouver un médecin s'ajoute maintenant donc la galère des pénuries de médicaments. Nicolas Bidart, Constance Meyer et Stéphane Lopez.
Au moment de passer commande, ce pharmacien se heurte à un obstacle de plus en plus fréquent.
Doit manquer d'une centaine de produits. Et là, par exemple, je peux vous montrer, c'est tous les patients. Donc, je dois avoir une cinquantaine de patients qui attendent leurs médicaments. Ça, c'est des médicaments importants pour lesquels je dois les rappeler.
Vous avez votre carte vitale.
Des difficultés d'approvisionnement, même après l'hiver, qui inquiètent ce professionnel.
On passe énormément de temps à expliquer aux patients, pour les rassurer aussi. Et puis à chercher et trouver une solution, soit appeler le médecin pour substituer, trouver une alternative, ou sinon essayer de trouver, commander directement au laboratoire. Ils ont du mal à comprendre qu'un pays comme la France n'arrive pas à avoir des médicaments pour leurs besoins de santé.
Depuis une dizaine d'années, le nombre de médicaments signalés en rupture de stock ou en risque de rupture a explosé. À peine 173 en 2012, près de 5000 en 2023. Les conséquences d'une production des principes actifs localisée aux deux tiers en Inde et en Chine. Et face à une hausse continue de la demande mondiale, difficile de fournir tout le monde, comme la France qui importe 80% de ses médicaments génériques. Interrogé lors d'une commission d'enquête sénatoriale l'an passé, l'industrie pharmaceutique assume ne pas prioriser le pays.
Vous verrez que ce sont des business models. Nos données nous montrent que nous avons un écart de prix d'à peu près 37% par rapport à l'Allemagne, ce qui a plusieurs conséquences. Ça n'incite pas les industriels à investir en France, ça crée des difficultés lorsqu'il faut prioriser l'approvisionnement en cas de tension. Et par ailleurs, les prix bas encouragent évidemment l'exportation parallèle avec un système d'achat-revente par des shortliners vers les marchés étrangers plus attractifs.
Depuis 5 ans, l'exécutif a pourtant multiplié les feuilles de route pour pallier les pénuries. En juin dernier, Emmanuel Macron présentait son plan de souveraineté sanitaire.
Dans les semaines à venir, je vous annonce que sur la cinquantaine de premiers médicaments essentiels pour lesquels notre dépendance aux importations extra-européennes est avérée, donc les médicaments à relocaliser, eh bien la moitié, c'est-à-dire 25 de ces médicaments, verront leur production relocalisée ou augmentée significativement sur le territoire national.
Quelques mois plus tard, l'usine danoise Novo Nordisk, spécialisée dans la production de médicaments du diabète et de l'obésité, est inaugurée à Chartres. Mais les autres réindustrialisations se font attendre. Dans un texte adopté en commission, cette députée préconise de renforcer les sanctions contre les industriels ne constituant pas assez de stock et de donner plus de pouvoir à l'Agence nationale de sécurité du médicament.
Elle va avoir la possibilité, quand elle entend une alerte, elle se dit, tiens, il y a une entreprise, une usine qui a une difficulté pour produire, elle peut aller peut demander à des industriels d'augmenter leur stock jusqu'à 4 mois sur des médicaments essentiels. Je prends par exemple l'amoxicilline, il y a 3 usines de production en Europe. S'il y en a une qui ne va pas bien, il faut qu'on puisse augmenter les stocks avec les 2 autres.
En attendant, une quarantaine de pharmacies ont été sollicitées par les autorités pour fabriquer elles-mêmes certains médicaments, comme ici à Paris.
En ce moment, c'est essentiellement l'amoxicilline, bien évidemment, mais aussi tout ce qui est flécaïne et bêta-histine, des produits qui sont utilisés en cardiologie et sur lesquels les ruptures sont fortes.
Un effort demandé en novembre 2022, toujours d'actualité.
Quand on nous a sollicité en disant, écoutez, il va y avoir des tensions sur les antibiotiques que sont essentiellement l'amoxicilline, on va avoir besoin de vous pendant 4 mois, on s'est dit, ok, on va se retrousser les manches, on va le faire pendant 4 mois. Et d'ailleurs, sur la dernière année, on a fait plus de 4,5 millions de gélules. Et là, on se rend compte, malheureusement, 15 mois après, c'est catastrophique, rien n'a d'avancé. Et c'est même pire, on en fait plus à la même époque cette année que l'année dernière.
Début 2025, la première usine européenne de paracétamol devrait ouvrir à Toulouse. Financé essentiellement par des fonds publics.
Alors, en fait, il y avait un lien avec ce qu'on disait, Gérald de Kerzec, sur la pénurie de médicaments, avec les prescriptions, pour faire le lien avec notre discussion. On voit que la France manque de médicaments. Et c'est aussi lié à une forme de consommation de la médecine avec la téléconsultation.
Est-ce qu'il y a besoin ou est-ce qu'il n'y a pas besoin d'antibiotiques? C'est clair que la téléconsultation, qui a été poussée par ce gouvernement, alors bien sûr, il y avait l'effet Covid, etc., mais enfin, ça a été clairement poussé pour pouvoir colmater les trous, etc., les brèches. Ce n'est pas de la médecine correcte. Et les collègues qui sont en téléconsultation, comment voulez-vous, quand vous avez un patient qui est en distanciel, ne pas prescrire un antibiotique? Vous prenez toutes les précautions. Ceinture, bretelles, parachute, et c'est des ordonnances à rallonge. Et nous, on voit les patients, on les voit arriver avec des ordonnances parfois qui sont pas pertinentes. C'est pour ça que le vrai sujet, c'est quelle pertinence, quel médicament, quel examen complémentaire. Et la téléconsultation, ça participe malheureusement à faire de la mauvaise médecine. On peut pas, on connaît pas le patient avant, on connaît pas le patient après. On pense en termes de responsabilité médico-légale, donc les collègues vont là aussi se couvrir. Et tout ça va être inflationniste. Donc bien sûr qu'il faut relocaliser, etc., la production sur certains médicaments. Mais surtout, il faut qu'on consomme moins, qu'on prescrive moins, qu'on consomme moins. Quand on voit que pour les gamins aux Pays-Bas, il y a 5 fois moins d'antibiotiques. Pourquoi? C'est les mêmes, les gamins du Pays-Bas ou les gamins en France. Sauf que l'organisation est complètement différente et nous, on a ce réflexe déjà culturel de prescrire les antibiotiques.
Les antibiotiques, c'est pas automatique. Ça, c'était bien rentré, quand même. Hein. Allez, à quand la vente de médicaments à l'unité? Est-ce que ça changerait les choses?
Non, c'est compliqué. Alors, les pharmaciens disent que c'est un peu une usine à gaz pour eux. Il y a des mesures qui sont imaginées par le gouvernement dans sa nouvelle feuille de route, la troisième qui va entrer en vigueur l'an prochain. Notamment, ils envisagent éventuellement de réduire le nombre de médicaments par boîte. Et du coup, ça permettrait d'avoir plus de boîtes avec moins de médicaments. Parce que vous savez, parfois, on a besoin de 8 comprimés et la boîte fait 20. Donc du coup, on se retrouve avec 2 comprimés. Et je pense qu'on a tous dans nos placards à pharmacie chez nous des médicaments en stock. Donc ça pourrait faire partie des mesures de lutte contre les pénuries. On peut aussi imaginer de renforcer les stocks de sécurité, les industriels qui sont contraints d'avoir 2 ou 4 ou 6 mois, par exemple, on pourrait monter jusque-là de stocks de sécurité de médicaments. Il y a aussi la production, relocaliser, ouvrir davantage de lignes de production de certains médicaments en France.
On l'a fait, ça.
On l'a fait, mais le gouvernement veut aller plus loin. Pareil sur les stocks, la députée Rabault qu'on a entendue dans le reportage veut aller plus loin pour contraindre les industriels à avoir plus de stocks stratégiques. L'amoxicilline pour enfants. Oui. Moi, cette année, cet hiver, toutes les semaines, j'avais au moins un lecteur ou une lectrice qui m'avertissait en me disant « Ah, M. Béraud, j'ai encore eu du mal à trouver de l'amoxicilline, c'est pas normal ». C'était un peu moins mal, un peu moins compliqué que l'année dernière, mais ça a toujours été très compliqué de trouver de l'amoxicilline pour enfants. Là, ça va un peu mieux aujourd'hui, parce qu'on arrive en fin de période hivernale et en fin des épidémies hivernales, mais il y a toujours la moitié des pharmacies, d'après les données officielles, qui sont en rupture de stock d'amoxicilline pour enfants.
Il y a plusieurs cas de figure. Par exemple, le diabète progresse dans le monde entier. Il y a une demande de médicaments pour le diabète dans le monde entier que les industriels ont du mal à suivre. Il faut mettre en route les chaînes pour s'adapter à cette nouvelle demande qui est vraiment, là-haut, c'est absolument phénoménal. Et puis, par ailleurs, il y a le sujet qui est né depuis le Covid, qui est, il y a des ruptures d'approvisionnement parce que, pendant le Covid, les industriels ont moins fabriqué, puisqu'il y avait moins de maladies, d'utilisation d'antibiotiques. Il a fallu du temps pour que la machine industrielle se remette en route. Oui. Et donc, on en est encore un petit peu là. Il y a un troisième problème qui concerne spécifiquement la France, qui est que la santé achète les médicaments moins chers aux industriels, aux laboratoires, que d'autres pays. Et du coup, eh bien, une partie des médicaments va plutôt en Allemagne d'abord, plutôt qu'en France. Donc, ça va se régler peut-être. La grande question qui est derrière, c'est est-ce qu'en France, on doit relocaliser la production des médicaments pour les avoir sous la main?
Alors, c'est une industrie polluante.
C'est une industrie, c'est la chimie. Ouais. C'est la chimie. Et est-ce qu'il faut le faire pour le paracétamol? C'est ce qui a été fait avec une grosse entreprise lyonnaise qui s'appelle Séquence, qui s'est mis à construire une usine. Mais pour construire une usine, pour mettre le principe actif du Doliprane, c'est 5 ans. parce qu'il faut des autorisations, et c'est normal, il faut des protections, etc., des vérifications. Donc ça prend effectivement du temps.
En sachant que c'est une industrie qui investit dans des traitements qui sont plus coûteux, on va le dire aussi, et qui n'investissent pas dans des traitements qui ne rapportent pas grand-chose. Vous parliez de l'amoxicilline ou du doliprane. Ça vous gêne dans l'exercice de votre métier, ces pénuries, ou est-ce qu'on contourne toujours l'obstacle ?
Le fait de contourner, c'est aussi une perte de chance pour nos patients. Je prends typiquement nos patients diabétiques. On a eu, vous vous souvenez, l'Ozempic, qui était ce fameux traitement qui a été mal utilisé, dérivé de son utilisation pour que certains patients perdent du poids. Donc nous, ça nous oblige à nous adapter pour des maladies chroniques, que ce soit l'hypertension, le diabète, etc. Donc oui, c'est une problématique. On va s'adapter, on va gérer, mais vous comprenez bien que on peut chercher toute l'étape d'équivalence, faire confiance à ses confrères pharmaciens qui réadaptent aussi les traitements. Mais la question, c'est, on dit, on doit s'adapter en cas de pénurie. Moi, j'aimerais bien qu'on me dise quand est-ce qu'on va s'adapter pour prévenir la pénurie.
Ouais, bien sûr. Est-ce qu'on va payer nos médicaments plus cher à l'avenir? Est-ce qu'il faut accepter de se dire de toute façon, on paye plus cher avec la franchise? Est-ce que ça va être le cas? On pose là sur la table des débats qu'on entend dans l'espace public de dire si on a les moyens, on paye plus cher. Est-ce qu'il faut aller vers ce genre de réflexion en disant on ne peut plus défendre le modèle de santé qui est celui de l'après-guerre?
Aller, mais à ce moment-là, on remet complètement en cause le modèle de la sécurité sociale qui était je cotise selon mes revenus finalement et je dépense selon mes besoins et pas en fonction de mes revenus. C'est quand même un beau modèle, quand même, ce modèle de la sécurité sociale. Et je pense qu'il n'est pas arrivé à sa limite. Encore une fois, il y a des gisements d'économie, à condition que ce soit des gisements d'économie sur quels soins sont utiles, quels soins ne sont pas utiles, sur le management. Enfin, moi, je suis hospitalier, sur le management de l'hôpital. Là aussi, il y a des sources d'économie, mais dramatiques. Je ne comprends pas que depuis 30 ans, on aille dans le mur, parce qu'on est piloté, finalement, à court terme, par, encore une fois, des financiers, et qu'à un moment donné, on ne change pas de logiciel, en se disant, mais attendez,
À chaque fois, on nous dit qu'on change de logiciel. À chaque fois.
Mais jamais. Vous savez, Einstein disait une phrase très simple. Ouais. On ne règle pas les problèmes avec ceux qui les ont créés. Ouais. On est dans un système qui a été créé par des gens qui sont aux manettes. Mais vous les prenez côté politique aussi. C'est exactement la même chose. Donc, à un moment donné, il faut refaire confiance quand même aux professionnels de santé et aux patients. Et quand je dis professionnels, ce n'est pas que médecins.
Après,
et
aux patients. Acheter des médicaments plus chers aux industriels en échange d'une promesse d'avoir plus de médicaments en soi, c'est une possibilité. Ce n'est pas le choix qu'a fait le gouvernement pour l'instant. C'est vrai que la franchise a monté. Et sur les pénuries, il y a aussi quelque chose que je trouve intéressant dans la feuille de route, mais il faut que ce soit mis en place en pratique. Vous savez, parfois, une personne a une prescription, elle va chez une pharmacie, il n'y a pas le médicament. Le pharmacien est incapable de lui dire où aller pour trouver le médicament. Donc il fait 4-5 pharmacies, il ne trouve rien. Oui. Ce qu'il faudrait, le gouvernement y travaille, mais on verra si c'est faisable, un outil informatique qui permette aux pharmaciens d'avoir en temps réel la liste des pharmacies dans le quartier où il y a garantie de trouver le médicament qu'il faut.
Doctolib va nous trouver ça.
Oui, c'est en général le privé.
Non, mais il faut quand même dire que la France est le pays développé où le reste à charge, c'est-à-dire ce qui sort de notre carte bancaire personnelle, est le plus faible.
D'accord.
C'est-à-dire c'est la Sécu qui paye la quasi-totalité des soins. Après, vous avez les assurances complémentaires, les mutuelles, et ce qui reste, nous. Alors, évidemment, c'est une moyenne, etc., mais c'est autour de 8%.
Mais regardez ce que nous dit Serge en Charente-Maritime. On va encore baisser notre pouvoir d'achat. Ma mutuelle, on parlait des mutuelles, vient d'augmenter de 6,2%. Combien de temps cela va-t-il encore durer? Qu'est-ce que vous lui répondez? En fait, on va payer de plus en plus pour notre santé. Est-ce que c'est ça, le sens, j'allais dire, de l'histoire?
Eh bien, la question, c'est une question d'arbitrage. Est-ce qu'on doit payer un petit peu moins pour les retraites en repoussant l'âge de la retraite pour payer un peu plus pour la santé? Voilà la question. Pour la question des mutuelles, il faut être très concret. C'est moins dans les entreprises que ça se passe, parce qu'il y a une contribution des entreprises aux mutuelles. C'est pour les retraités qui payent de leur poche une mutuelle qui est peut-être assez élevée puisqu'ils sont plus âgés. Et donc, les hausses de tarifs de mutuelles, ça les concerne très directement.
Mais est-ce qu'on est à la croisée des chemins, Gérald de Kerzec? Votre réflexion sur quand vous regardez le système de santé à 10-20 ans, vous dites de toute façon, avec le vieillissement de la population, avec la charge de la dette, est-ce que oui, on va payer plus pour notre santé et il faudra l'accepter?
Je pense qu'on va aller dans le mur et qu'on va aller dans un système où vous aurez les moyens, le réseau, l'argent, vous serez bien soigné. Vous n'aurez pas soit le réseau, soit l'argent, vous serez moins bien soigné. Donc on va vers ce système très inégalitaire.
C'est déjà le cas.
C'est déjà le cas, bien sûr, mais on va y aller de plus en plus. Et en tout cas, ce n'est pas ces mesures qui ne sont pas des mesures structurelles qui vont régler le problème. Il y a des vraies mesures structurelles, et vous avez raison d'employer le terme de long terme. Il faut qu'on ait une vision à long terme, et ce n'est absolument pas ce qui est fait actuellement. En tout cas, ce n'est pas ce qu'on constate.
Alors, on voulait aborder ce sujet parce que c'est une réalité à laquelle les praticiens n'échappent pas. Chaque jour, en moyenne, 65 professionnels de santé sont victimes d'agressions physiques ou verbales. À l'hôpital de Chaland, en Vendée, un brancardier a été passé à tabac et hospitalisé. Il est encore en soins intensifs. Laura Rado avec Aubry Perrault et Michel Bouilly.
L'agression a eu lieu sur ce parking. En fin de matinée samedi, un brancardier de l'hôpital de Chaland est passé à tabac alors qu'il prenait sa pause. Laissé inconscient au sol, il a été admis en soins intensifs. Son état est désormais stable.
Il est choqué et dans l'incompréhension totale. Le coup porté est quelque chose d'une extrême violence. Et en cela que ce n'est pas acceptable. Et ça aurait pu être beaucoup plus grave.
À l'origine de l'agression, des proches de deux patients pris en charge aux urgences qui se sont énervés, frustrés de ne pas pouvoir les accompagner et du délai d'attente jugé trop long.
Je voudrais vous dire que la prise en charge de ces deux patients qui sont arrivés s'est faite sans délai. Et j'insiste, et je le répète, sans délai. Ça a été très violent, c'est inexcusable, inexplicable et intolérable.
Je peux vous dire, l'auteur des coups qui a pris la fuite est activement recherché. Le ministre délégué à la Santé dénonce une agression ultra-violente.
Je pense à lui, sa famille, et je voudrais vraiment dire la lâcheté de cette violence qui s'est déchaînée, la lâcheté de cet acte.
Pour les soignants, cet épisode n'est en rien une surprise. Insultes, coups, menaces, tous décrivent un climat de tension de moins en moins supportable.
Ce n'est pas un fait isolé, ça a été, il y a même un observatoire des violences qui a été fait. Ça monte en puissance, ce n'est pas quelque chose qu'on connaissait il y a 30 ans. Je crois que ce que vous voyez aux urgences est la banalisation de cette violence qui est repoussante pour les soignants, qui est abjecte, et ben vous la voyez absolument partout.
Des violences devenues monnaie courante et qui vont parfois jusqu'au meurtre. L'an dernier, une infirmière de 37 ans est décédée à l'hôpital de Reims après avoir reçu plusieurs coups de couteau. L'œuvre d'un déséquilibré suivi en psychiatrie. Après le drame, le personnel pose la question de la sécurité.
Là, on se dit effectivement, notre profession, elle n'est pas à l'abri de ce genre d'agression. Hein, on n'est pas protégé du tout, du tout, du tout.
On le vit douloureusement et on ne devrait pas la vivre, une journée comme ça. Il y a beaucoup de tristesse, il y a de la colère, parce que ça n'aurait pas dû arriver et ça ne devrait pas arriver.
Si vous le souhaitez, à l'hôpital, mais aussi en ville, la peur gagne du terrain, notamment chez les infirmiers qui interviennent seuls au domicile de leurs patients.
Il y a des exigences, en fait, la société est venue peut-être de plus en plus exigeante et n'accepte plus de patienter, n'accepte plus que des infirmiers ne puissent pas tout faire. Je pense qu'il y a une problématique du système de santé qui a du mal à répondre à un besoin de santé. Et du coup, je pense que ça génère aussi cette colère, cette frustration de ne pas avoir de réponse. Et l'infirmier qui est peut-être le plus accessible, qui est celui qui va au domicile du patient, va se prendre toute cette colère, cette décharge.
Les actes violents signalés n'ont jamais été aussi nombreux. Plus de 30 000 dans les structures hospitalières en moyenne. En réponse à cette agressivité croissante, le gouvernement va créer un délit d'outrage sur les soignants, puni de 7 500 euros d'amende.
Votre réaction, Gérald de Kerzec, à ce reportage, ça vous arrive, vous ?
Déjà, j'ai une pensée pour le collègue brancardier. C'est de la violence inadmissible. Et, évidemment, heureusement, ça reste exceptionnel, mais de moins en moins. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on a des incivilités au quotidien. Je sors de garde, il y a dans une salle d'attente, forcément, avec la douleur, avec le stress, avec le temps d'attente qui augmente, avec le manque de disponibilité de lits d'aval, etc. Ben, il y a des familles de plus en plus intolérantes qui veulent claquer des doigts et qui veulent avoir tout de suite une réponse.
Et là, il se passe quoi ?
Comme dans d'autres domaines, ben, ça monte, la sauce monte. Alors, soit vous avez les moyens d'avoir quelqu'un quelqu'un qui vient dans la salle d'attente. Avant, on avait un médiateur dans la salle d'attente. On avait un médecin coordinateur qui était là pour justement fluidifier, apaiser, etc. Soit il n'y a pas, et malheureusement, ça peut vite déborder avec une société qui devient de plus en plus intolérante à la frustration. Et donc, quand on a des gens qui ne sont pas éduqués, qui respectent ni la police, ni l'instituteur ou le prof, il n'y a aucune raison de respecter la blouse blanche. Alors après, je pense que la solution...
Mais vous êtes formé, hein, vous me disiez pendant la
Oui, il y a des formations sur la gestion de la violence. La solution, ce n'est pas d'escalader, parce qu'on voit bien que derrière, c'est de dire on met des vigiles, etc. Mmh. Ce n'est pas un bunker, l'hôpital. L'hôpital, ça doit rester un lieu ouvert, un lieu d'accueil. En revanche, il y a des moyens pour gérer les temps d'attente, gérer le stress, etc. Fluidifier les circuits, organiser les circuits, arrêter de fermer des lits d'aval, ça permet d'aller plus vite et donc d'avoir moins d'attente. Ça, c'est pour les petites incivilités. Pour la violence, là, on est sur quelque chose qui est complètement différent et qui est intolérable. Un autre sujet, c'est la psychiatrie. Parce que nous, on gère beaucoup de malades psychiatriques. Les collègues psychiatres n'ont plus de lieu pour pouvoir accueillir les patients, ne peuvent plus les suivre. Et ces patients-là peuvent décompenser. Et on voit bien les drames auxquels on peut être confronté.
Une réaction à ce reportage ?
Alors, à l'hôpital, c'est différent par rapport à l'activité de ville. Dans nos cabinets, la gestion de crises de violence comme ça, elle est quand même assez sporadique. On peut avoir des petits conflits, mais nous, on peut aller directement en salle d'attente et rassurer nos patients. On peut aussi leur dire qu'on est en retard pour telle ou telle raison. Donc, on n'a pas la même escalade de violence. C'est complètement inexcusable, inadmissible ce qui vient de se passer. Mais encore une fois, c'est une notion de fluidification.
Oui, mais vos patients n'ont pas changé. Alors, vos patients, ils vont sur Internet, ils veulent un rendez-vous tout
absolument.
De suite.
Absolument. Non,
ils savent tout sur tout parce qu'ils ont regardé Google.
Les médecins Google. Bon. Non, mais on est sur un fait sociétal. C'est pas que pour les médecins. Il y a cette notion d'immédiateté. Tout de suite.
Et d'ailleurs, dans les avis Google des médecins, parce que maintenant tout le monde est noté, même les médecins et les hôpitaux, dans les avis Google, il y a beaucoup de commentaires très offensifs, disant j'ai attendu une heure, c'est inadmissible, c'est un scandale. Il y a aussi la tentation de vouloir tout de suite. Après, il y a effectivement des médecins qui ont beaucoup de retard. Mais parfois, ce qu'expliquent les médecins, c'est quand ils ont du retard, c'est pas de leur faute, c'est parce qu'ils ont pris du temps pour un patient qui en avait besoin, etc.
Évidemment, ça n'explique pas du tout ce qui vient de se passer, c'est scandaleux. Mais il y a une question qu'on peut se poser chacun d'entre nous, c'est est-ce que nous sommes, et vous avez dit le mot, intolérants à la frustration. C'est-à-dire, est-ce qu'en tant que patients, nous souhaitons, parce que nous avons une inquiétude, avoir un résultat immédiatement. Peut-être qu'autrefois, on disait bon, ben, on va attendre 15 jours, 3 semaines et on verra ce qui se passe.
Le rendez-vous
là, le téléphone a probablement... Enfin, les réseaux sociaux ont tout changé aussi.
Corinne en Meurthe-et-Moselle, mon médecin arrêtera dans 2 ans. Comment vais-je faire, sachant qu'il ne trouve pas de remplaçant?
C'est l'inquiétude d'énormément de personnes en milieu rural. Parfois, les médecins qui sont censés partir à la retraite, certains acceptent de faire 1 an, 2 ans de RAB parce qu'il n'y a pas de remplaçant. Il y a maintenant des maires qui sont très imaginatifs pour essayer de trouver des médecins remplaçants. Ils vont faire des petites annonces sur Internet. Ils vont tenter de mettre en place... Il y a un système qui est intéressant. C'est, ça s'appelle les médecins solidaires. C'est-à-dire qu'il y a des médecins qui, une semaine par an, acceptent d'aller faire une semaine de vacation dans un village où il n'y a pas de médecin. Donc, on essaye comme ça de trouver des combines. Mais bon, c'est
il n'y avait pas l'idée, justement, de faire appel aux médecins retraités?
Si, ça peut aussi. Et il y a des médecins retraités qui acceptent de faire un peu de rab temporairement. Mais les médecins retraités, ça pose aussi des questions. S'ils n'ont pas exercé depuis longtemps, est-ce qu'ils sont toujours au fait des dernières innovations thérapeutiques, par exemple?
Est-ce qu'un médecin a droit de dire qu'il ne prend pas de nouveaux patients?
S'il peut pas, pour des raisons d'emploi, bien sûr. Alors après, ça pose quand même un problème déontologique, parce qu'on est censé le référer si on refuse, sinon ça peut être assimilé à un refus de soins. Mais à un moment, il va falloir qu'on se pose la question, pourquoi en fait on n'arrive pas à attirer des jeunes médecins? Pourquoi on n'arrive pas à attirer des jeunes médecins dans certaines disciplines? Pourquoi les confrères et les consoeurs dermatos ne font plus de dermatologie mais font de la médecine esthétique?
Parce que ça rapporte plus.
Mais bien sûr, mais c'est pas parce que ça rapporte plus, c'est parce que la dermato rapporte pas assez, dans le sens où quand vous avez un bac plus 12 ou un bac plus 14, un prix de consultation à 40 euros, est-ce que c'est un prix légitime? Est-ce qu'un chirurgien qui opère...
C'est rarement à 40 euros, mais...
C'est en secteur 2, si c'est en secteur 1 remboursé, je suis désolé, c'est un tarif de spécialiste. Est-ce qu'un chirurgien en secteur 1, là encore, remboursé dans une clinique, c'est normal?
Mais c'est intéressant la relance de Dominique Seux, parce que c'est vrai qu'on ne sait plus quels sont les tarifs quand vous êtes dans une grande ville et que vous prenez votre rendez-vous. C'est vrai que le tarif des spécialistes, c'est rarement...
Parce qu'il y a des dépassements d'honoraires, parce qu'ils sont obligés de payer la secrétaire, de payer l'immobilier. Encore une fois, l'idée, ce n'est pas d'être corporatiste. Souvent, on nous reproche d'être corporatiste sur ce sujet-là. Mais l'intérêt des médecins, c'est les patients.
L'objectif du soin, c'est de soigner les patients. Sur les revenus, il y a une très grande variété.
Bien sûr.
Il y a des spécialistes qui gagnent extrêmement bien leur vie.
Et qui explique des choix de spécialité et donc des trous démographiques sur des spécialités moins rémunératrices.
Allez, on passe maintenant à vos questions. J'ai pris rendez-vous à 14h15. À 15h30, je suis toujours dans la salle d'attente. J'ai la réunion parents-prof à 16h. Je m'en vais. Ai-je posé un lapin?
Bah non, factuellement non, mais non. Encore une fois, non. Bah non, c'est-à-dire que le patient était là. Non, mais après, il nous arrive d'avoir du retard, très objectivement, on va pas se mentir. C'est pas quelque chose que j'apprécie d'avoir du retard. Ça veut donc dire qu'en amont, j'ai peut-être eu un patient qui posait problématique. Mais je reviens en salle d'attente et je l'explique à mes patients. Et ça se passe bien en général.
Où vont les 5 euros de la taxe lapin? Alors, au médecin ou dans médecin. Les caisses de l'État?
Au médecin. À ce sujet, il faudra que le gouvernement lève quand même. Il y a quelque chose qui n'est pas clair et pas normal quand il dit un lapin, c'est à la fois un rendez-vous non honoré ou un rendez-vous annulé.
Ah, oui,
24 heures, vous pouvez avoir à annuler un rendez-vous pour une raison tout à fait sérieuse. Donc, ça, ce point-là, il va falloir le préciser.
Oui. Si et on ne veut pas.
Mais il n'avait plus besoin du rendez-vous médical. Gabriel Attal, quand il était ministre de l'Action et des Comptes Publics, avait imaginé 10 euros, 5 euros pour le médecin, 5 euros pour l'assurance maladie. Samedi, quand on l'a vu, il nous a dit, on m'a fait comprendre que c'était un défi technique immense. Donc pour l'instant, 5 euros pour le médecin. Le médecin qui fait payer son patient, j'insiste, hein, c'est lui qui décidera.
C'est lui qui décidera.
Il le fera rarement, je prends le pari.
Allez, cette question d'Yvette. Pour poser un lapin à un médecin ou à un dentiste, encore faudrait-il en avoir un dans le voisinage, dans un rayon de 50 km? Non, le voilà, le vrai sujet.
Mais oui, c'est là où on disait que ça ne va pas résoudre le problème de l'accès aux soins. C'est une mesurette. Dominique a raison, ça ne sera pas appliqué parce que ça va être compliqué. Vous allez expliquer à votre patient que finalement, ça va être une négociation dans la salle d'attente sur je te prends les 5 euros, je ne te prends pas les 5 euros. Enfin, ça n'a pas de sens. Et surtout, ça ne rend pas cette relation médecin-malade qui est basée sur de la confiance, sur une relation un peu noble finalement et de confiance. Je trouve que là, ça va introduire quelque chose lors de la défiance.
Ou on peut dire que c'est un rappel à l'ordre ou à la loi.
Allez, on avance. Robert à Bruxelles, médecin retraité, il nous le précise. Récupérer une taxe lapin de 5 euros, mon CHU belge facture 30 euros et met tout en œuvre pour les obtenir. Donc 5 euros, ce n'est pas grand-chose.
Effectivement, ce qui a été dit sur les États-Unis, on facture le prix de la consultation.
Mais par contre, effectivement, MG France, le plus gros syndicat de médecins généralistes, il est opposé pour la raison qui vient d'être dite, parce qu'il considère que c'est un faux problème par rapport au vrai problème de fond.
Il manque des généralistes, mais dans mon cabinet médical, tous les médecins consultent 3 jours par semaine. Le problème n'est-il pas là?
Je ne sais pas si...
c'est vrai que c'est...
Non, mais c'est aussi des choix de vie de la part des praticiens. Encore une fois, je dis, on nous fait retomber un peu la responsabilité du système de santé qui va dans le mur. Je rappelle encore une fois, 1 plus 1, ça fait 2. On fait des études, on fait médecine, on fait par vocation, par choix. C'est un métier passion qu'on aime. Mais on ne peut pas se dupliquer. Donc,
non, mais là, elle dit 3 jours par semaine.
Oui, mais des fois, j'ai des praticiens.
Il y a aussi des vies. Ne veut pas forcément dire travailler 3 jours par semaine. Les médecins font peut-être des choses à l'hôpital, font peut-être des formations,
peuvent être dans plusieurs cabinets à la fois.
Mais
ce qui est vrai, je parle encore une fois sous le contrôle des médecins sur le plateau, un certain nombre de médecins restent longtemps dans le remplacement. Parce que c'est difficile soit d'accéder, soit que c'est un choix aussi de vie.
Voilà. Il y a un changement sociologique, notamment la jeune génération qui a envie, et féminisation, il faut bien se rendre compte, 80% des médecins, des nouveaux médecins, sont des femmes. Il y a un choix de vie et d'organisation qui est différent. Après, ça peut être 3 jours pleins aussi, de 7h du matin jusqu'à 21h, mais je pense qu'il faut bien sûr le prendre en compte dans la démographie médicale et dans le nombre
de... Avec 30% d'administratifs dans le domaine de la santé, ne pourrait-on pas faire quelques économies, vous le disiez tout à l'heure?
Alors c'est vrai, à l'hôpital, il y a une différence très sensible et confirmé par des tas d'études entre l'Allemagne et la France, les frais administratifs sont plus élevés, de l'ordre de 27% je crois en France et de 21% en Allemagne.
Cette question, on l'a beaucoup ce soir, Sandrine, infirmière. Imposons aux jeunes médecins d'aller dans les déserts médicaux en fonction de leur niveau, leurs études étant payées par l'État.
Ça, c'est une ligne rouge pour le gouvernement qui a été réaffirmée samedi. Il y a des députés, notamment Guillaume Garot, qu'on proposait à l'Assemblée nationale de mettre une part d'obligation, notamment de contraindre des jeunes médecins d'aller dans les déserts médicaux ou les territoires les moins dotés en médecins. Les syndicats de médecins sont contre. Le gouvernement, pour l'instant, et c'est le cas depuis longtemps, est contre. L'un de ses arguments, c'est de dire que toute la France est en désert médical, certes, mais après, quand même plus ou moins selon les territoires. Mais ça, clairement, c'est une ligne rouge. Mais ce que disent les promoteurs de ça, c'est que ça se fait déjà pour d'autres professions que les médecins. Donc après tout, pourquoi pas?
Ça ne pourrait se faire que dans un seul cas de figure, c'est si les études étaient payées. Oui, c'est le cas, par exemple, pour la médecine militaire.
Oui, là, les études, leurs études étant payées par l'État.
Non, je précise que mes parents sont ravis s'ils entendent ça. Les études ne sont pas payées par l'État. C'est bien mes parents qui m'ont aidé jusqu'au bout. Après, cette notion de coercition et de mettre des médecins chaque coin de rue, c'est compliqué. Encore une fois, c'est une question de ressources. Et ce sont des dosaires globaux, pas que médicaux.
Tout ce qui n'est pas remboursable est à la charge de tous les patients, même ceux dits à 100%, le savent-ils ? Non.
C'est-à-dire ?
Oui.
Non, mais
tout le monde paye pour tout le monde.
Ce qui est sûr pour le 100%, vous savez, on a un ordonnancier bizone. En haut, c'est tout ce qui est à 100% et en bas, ce qui n'est pas à 100%. Il y a une pression des patients et là aussi, il va falloir que chacun mette un peu du sien pour tout mettre dans le 100%. Ah,
je crois
que
c'est non, pour la maladie, donné, hein, si la maladie à 100%.
Si l'idée, c'est de dire la santé sans prime, elle a un coût, oui, c'est évident.
Bon, et bien merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir aux alentours de 23h. Mais n'oubliez pas désormais que C'est dans l'air est rediffusé sur France Info, Canal 27, le matin à 9h également sur France 5. Je vous souhaite une très belle soirée. On se retrouve demain en direct à 17h30. Merci d'avoir écouté C'est dans l'air. Comme vous le savez, vous pouvez désormais écouter l'intégrale, mais aussi l'invité ou vos questions à nos experts. Tous ces podcasts sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes de streaming audio. Et pour le replay vidéo, c'est sur France.tv, bien évidemment. À bientôt.